Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 8 juillet. Vous êtes sur Radio Silence et vous écoutez Flash sur le monde. Nous allons commencer par parler de la conférence de presse du président Trump d'hier depuis la Floride. Ça, moi, je le vois sur Facebook parce qu'il y a un site Breitbart qui fait le travail que tous les autres médias ne veulent pas faire. Vous savez, les autres médias font du blackout, hein, c'est-à-dire tout ce que Trump fait, il n'en parle pas, tout simplement parce que Trump a osé dire qu'ils étaient de mèche avec les démocrates pour voler les élections. Donc, vous voyez un peu ce genre de démocratie. C'est pas démocratie, c'est d'ailleurs un mot que je ne cautionne même plus trop. Je vais dire, laissons tomber la démocratie, mais voyons ce qu'on appelle ici au Cameroun le vivre ensemble, ou alors une façon, le pacte, voilà ce que Jean-Jacques Rousseau appelait. Restons-en au contrat social. Le contrat social, ça a nécessité pour la presse de couvrir les événements de façon équitable, sinon ça, ce n'est plus une presse, voilà. Et si elle est là pour les démocrates, elle doit plus s'appeler presse. Et vous allez comprendre que c'est cela qui est derrière le bien fondé de ce que Trump a annoncé hier, parce que on fait pas une conférence de presse pour faire. On vient dire quelque chose d'important. Et en l'occurrence, il annonce qu'il va poursuivre en justice les tyrans du big tech, comme on appelle, à savoir donc Facebook, Google et Twitter. Google, c'est lui qui a YouTube, donc on ne va pas redire YouTube, parce que il est boycotté, enfin, il est boycotté partout là-bas, il est banni pour les événements du 6 janvier. Et vous voyez donc déjà les pouvoirs que se donnent les réseaux sociaux, les médias sociaux et les autres médias sur le législateur et sur la justice. C'est impressionnant, vous voyez. Et donc, il va porter l'affaire en justice et jusqu'à ce que. Alors, c'est ce qui est important, les mots, hein, les mots, parce qu'il dit, déjà lui-même, il a été banni, ça, on n'en parle plus. Mais il dit qu'il va poursuivre ce combat-là, à la fois devant la justice, devant le Parlement aussi, et puis y compris au moment des votes. Donc ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter seulement avec la loi, ça doit aussi entrer dans la citoyenneté, dans les droits de l'homme. Il n'a pas cité le mot, mais c'est ça, parce qu'il dit que jusqu'à ce que les Américains retrouvent leurs droits et leur souveraineté. Voilà le mot, la souveraineté. Vous vous rendez compte? L'Amérique est en train de réclamer sa souveraineté parce qu'elle se sent piégée par des gens qui représentent les intérêts de l'extérieur et pas de la nation. Alors, il y a un institut, enfin, c'est avec son équipe, la TUM, ils ont créé un institut politique qui s'appelle America First Policy Institute. Donc, là-bas, il y a beaucoup d'instituts, hein, et ça marche très bien parce que c'est un peu des organes, comment on disait ça, les big tanks, pour réfléchir un peu, j'aime pas le mot de big tank, c'est des centres de réflexion. Et au-delà de sa personne, vous savez aussi que Facebook, bon, fait la même chose aux gens, donc on appelle ça une forme de bannissement dans l'ombre, une forme de réduction de la parole des citoyens au silence. Une sorte comment dire, de fichage, vous voyez, une liste noire, où comme ça on fait disparaître les gens. Et ça, on est surpris que dans ce siècle, on assiste à ce genre de choses où c'était un ancien président qui vient maintenant faire le travail que les citoyens avisaient, ou plutôt que les parlementaires ne devait jamais voir ce genre de choses arriver à l'Amérique alors que les parlementaires sont là, alors que la justice est là. Donc, où la conférence de presse, il y a quelqu'un qui a précisé de sa team que vraiment, bannir un président de la République, c'est déjà fort de café, mais de toute façon, tout bannissement ne relève pas de Facebook ou de Twitter ou de Google, ça relève de la Cour suprême et de la justice. Et si on pense que pour gagner les élections, il faut faire taire l'autre camp, ou pour occuper l'espace public, il faut faire taire l'autre camp, c'est-à-dire quand les médias sont au service des démocrates et pas des républicains, parce que les républicains, figurez-vous que Trump a pris quelque sorte le leadership du parti. Et ça, ça plaît pas. Ça plaît pas ici, ça plaît pas. Bon, on applique la censure. Où est-ce qu'on a vu ça? On rétrograde. Et quelqu'un d'autre a demandé si ben, est-ce que Facebook finalement n'était pas dans leurs droits parce que ce sont des entreprises privées. Justement, voilà l'arnaque. Pourquoi est-ce que il y a ces grosses le big tech qui est protégé comme l'aéronautique aussi, par exemple Boeing, ça ce sont un peu des succursales de l'État. C'est un peu des structures décentralisées. Google a commencé par copier ou par être sous-traitant de comment on appelle ça, de la défense, du service militaire. Donc, il a bénéficié de la technologie, Internet, tout ça. Il le fait comme sous-traitant de la défense. Google n'est pas là comme il croit parce qu'ils sont très forts en informatique. C'est des entreprises qui sont la Silicon Valley. Elle est sûrement entretenue, portée à bout de bras. Vous savez, comme on dit, les too big to fail, là, qui ont bouffé l'argent et qui sont partis. Parce que c'est ça, c'est une vitrine de l'Amérique, ça représente l'excellence américaine et enfin, sa volonté de domination aussi avec ces outils-là. Donc, à partir de là, ils ne sont pas nombreux. Il y a Google, il y a Twitter, il y a Facebook. Voyons, les comptes, ils sont très peu en situation de monopole, bien sûr, parce qu'ils sont d'utilité publique, ils représentent plus qu'eux-mêmes, ils représentent la force de l'Amérique, à la fois nationalement et à l'étranger. Et moyennant quoi? Ils conservent dans ce domaine monopolistique et ils sont d'intérêt public et ils sont pas concernés par les lois antitrust. Ils ont des protections multiples et variées. On a d'ailleurs accusé Obama d'avoir accordé beaucoup dans ce sens à Google. Donc quand vous avez tout ça d'un côté, de l'autre, vous venez pas dire que vous êtes des entreprises privées. Non, pardon, vous n'en êtes pas du tout. Moi, je pense là à la France. Hein. La France, vous avez aussi là-bas une forme de protectionnisme où il y a peut-être trois ou quatre opérateurs, c'est tout. Donc, Google, Facebook et tous ces ne peuvent pas dire qu'ils sont des entreprises privées. Ça ne marche pas. Auquel cas, si vraiment elles sont des entreprises privées, qu'elles veulent qu'on leur applique le droit privé, ben alors, on va ouvrir le secteur, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont aussi forts en informatique, qui peuvent créer des Facebook, des Twitter, et vous voyez un peu, on va ouvrir le marché, et puis voilà, ça sera ça. Donc, ce qui est désolant, c'est que le Big Tech a eu tous ses avantages, et en fait, derrière, ils cachaient leur projet, qui était finalement de devenir le Kaiser à la place du Kaiser. Non, ça c'est une filouterie qui ne peut pas passer, et puis de toute façon, on ne peut pas revenir sur l'Amérique ne peut pas accepter que sa souveraineté soit bradée, que la liberté d'expression n'existe plus, ils appellent ça le premier amendement. Il apporte l'affaire en justice, on verra si la justice, qui est déjà très compromise avec les événements des élections, va faire quelque chose. Mais il y a plusieurs niveaux. Ça sera aussi débattu au niveau du Parlement. Ça sera aussi débattu lors des élections l'année prochaine et pas plus tard que l'année prochaine. Et il y a quand même un scandale à voir un président être banni. Déjà, c'était pratiquement un exercice à la fin de l'exercice. Mais bon, enfin, l'exercice, les mots, bon, à la fin, il faut mettre guillemets. Il y a quelque chose d'insolent, c'est pour ça qu'il doit parler de reprendre la souveraineté en main. Comme si eux, les Twitter, les Facebook, les Google, des gens à qui on a accordé tous les avantages, étaient tout d'un coup plus responsables, plus amoureux de l'Amérique que l'Amérique elle-même. Vous voyez un peu, c'est insultant pour un président et c'est insultant pour ceux qui votent pour ce président-là. En quoi, même les parlementaires qui sont restés là, qui sont les gens par qui justement le président Trump arrive parce qu'on en a marre, mais on ne sait pas comment les foutre dehors. Le système est bloqué parce que vous allez toujours élire les mêmes, parce que c'est l'argent. En quoi ces gens-là, les parlementaires aujourd'hui, vous avez la présidente de la House, une dame de 80 ans passée, si on parlait de la retraite, pardon, combien de mandats, on ne sait plus. Vous avez les gens qu'on ne peut pas enlever, hein, parce que le système est tel que elle, je crois qu'elle est l'épouse d'un banquier, ils ont l'argent, plus l'argent, plus l'argent, plus l'argent, finit par élire, voilà, la personne. Vous demandez même comment, parce que quand la personne prend la parole, quand même, pardon, bon, c'est leur problème. Et en quoi, elle, qui va faire une commission pour enquêter sur les événements du 6 janvier, après le discours de Trump, l'insurrection, en quoi elle ou tous les autres qui sont là depuis 40 ans sont plus responsables que ne serait le président Trump? Je veux dire, c'est d'une arrogance qui ne peut provenir que de l'extérieur, mais on ne va pas dire l'extérieur, parce que vous allez voir que l'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur, parce que depuis, il est rentré, il a infiltré les lieux, il est à l'intérieur. Et des fois, il n'a pas infiltré. C'est quelqu'un tout à fait, comme on dit, l'enfant du pays, qui va se transformer tout d'un coup en collabo. Donc, c'est comme ça. Et cette histoire qu'on pensait derrière nous revient en force. Et j'ai, bon, pour passer de Trump, on ne va pas faire en finir avec l'Amérique, le Nevada, qui voulait donc auditer les élections dans son État. Ben, le juge a dit non. Ah, comment voulez-vous pacifier une nation lorsque la justice est aussi compromise, aussi démissionnaire et aussi clairement, entre guillemets, vendue? Elle se cache même plus. La Pennsylvanie veut refaire un peu la même chose à échelle réduite en regardant, en auditant deux ou trois districts, circonscriptions. Là aussi, le juge a déjà prévenu, ah non, non, ça ne sera pas possible. Voilà, la justice dit non bien avant. C'est vrai qu'eux, ils sont très responsables, une justice qui se tait, qui ne vérifie pas les faits. Ça, on n'a jamais vu en Amérique. C'est pour cela que Trump, quand il dit retrouver la souveraineté de l'État, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et c'est d'autant plus qu'on avait fait ici un flash sur le monde qui parlait, c'était quoi la revue Jacobin.com, le magazine, Jacobin Mag aux États-Unis. Et dans cette revue, il y a eu un rappel de ce que les pères fondateurs auraient peut-être laissé une béance pour les filous en disant que ceux qui possédaient le pays devaient le gouverner. Alors, dans ceux qui possédaient le pays, ça voulait dire que ceux qui ont l'argent et qui ont le pouvoir et qui ont enfin ceux qui ont les moyens de le posséder, on a pensé donc dans les moyens, enfin les filous ont pensé que dans les moyens, c'était pas forcément les moyens ou les valeurs morales, c'était forcément celui qui a l'argent. Et effectivement, ça tend à favoriser cette interprétation. Compte tenu de l'évolution de la société. Et ceux qui ont donc l'argent, ça peut être le big tech, ça peut être aujourd'hui, avant c'était pas ça, se sont donc cru, c'était les big banks, ont donc pensé qu'ils pouvaient gérer le pays est à eux, donc ils ont l'argent, ce sont eux qui le gèrent. C'est la même philosophie qui se poursuit avec ce hold-up du big tech sur la démocratie. Malheureusement, on ne peut pas continuer comme ça. Ils ne possèdent pas le pays, parce que si c'est le plus riche qui possède le pays, n'importe qui vient de l'extérieur, il achète tout. Et c'est peut-être ça aussi que la Chine a tenté, parce qu'elle s'est dit, bah, attends, attendez, c'est un pays qui a acheté, qui a à vendre, ben, moi aussi je peux me l'offrir. Et effectivement, la Chine était en passe de s'offrir l'Amérique. Hein. Bon. C'est pas pour rien aussi que quand Trump parle, vous savez, c'est un chef d'État, il va parler à sa façon, il va pas parler à notre façon, mais les initiés comprennent et ils détournent le message pour dire si, si, ça. Bref, on arrive à la France. La France, j'étais contente parce que c'est le même problème, l'ennemi de l'intérieur. J'étais contente parce que Attac est allée rendre visite à la Samaritaine. pour bien préciser que le propriétaire qui devient riche comme ça, l'homme le plus riche, il a gagné combien de milliards? C'est une honte. Pendant que les gens mouraient et pendant que les gens étaient confinés, voyez un peu, il suffit de créer un microbe, un virus quelque part maintenant pour enrichir certains. Toujours les mêmes gros requins et les autres sont là, confinés, ne sortez pas, ne faites rien, commandez vos affaires sur Amazon, commandez vos habits à la Redoute et tout ça. Non, mais vous vous rendez compte, c'est un peu, c'est d'une escroquerie monumentale, c'est la même escroquerie qui travaille derrière le Big Tech, qui demande des avantages, c'est toujours pareil. On vient comme avec la pomme, on vient en suppliant et après on se révèle être le plus grand bandit de la planète. C'est ça. Alors le virus, on est là, on regarde les gens mourir, alors quand les gens sont en train de se faire la malle à côté, c'est normal qu'attaque à rendre visite vraiment. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai toujours appelé ça ici, je dis mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Les gens vous crachent dessus comme ça et vous regardez. Et ce qui est pire dans cette histoire, la Samaritaine, pardon. Bon, évidemment, mettre argent sale et tout, c'est très bien, c'est très bien. Moi, quand je vois déjà le mot Samaritaine, je vois qui est derrière. On est quoi, la Samaritaine? Le détournement des symboles. Hein? Ça, c'est toujours la même chose. Parce que c'est le même sujet avec le Big Tech. Le Big Tech était le symbole de l'Amérique. Finalement, ils deviennent symbole, je sais pas, un législateur planqué, non élu par qui que ce soit, ou alors un juge suprême qui vient faire la loi. C'est pas pour ça qu'ils étaient là. C'est toujours un détournement des positions et des symboles. La Samaritaine, le bon Samaritain, ça vient de la Bible. C'est pas du tout ce que représente Monsieur Arnaud. Non, du tout. Et quand il met la Samaritaine, et la Samaritaine, elle, c'est un magasin de luxe. Ça, enfin. Qui rend quel service aux pauvres? La Samaritaine, au contraire, elle les ruine. Donc, on regarde ça et on est triste un peu pour l'époque. À Paris, donc, toujours, puisqu'on est à Paris, la dernière fois, enfin, c'était la semaine dernière, il y a eu les Camerounais qui ont manifesté contre, je sais pas, contre le gouvernement camerounais, bien sûr. Pour plusieurs raisons, hein. Il y a un mécontentement. Il y a un mécontentement de la façon dont les choses se font ici. Et il y a surtout ce qui, moi, me préoccupe ici, c'est la question de la souveraineté du Cameroun. Trump, il parle de la souveraineté de l'Amérique, mais c'est pareil. Ailleurs, le problème est aggravé. Et ici, on a ce blocage sur la double nationalité qui fait que beaucoup de gens qui ont défilé là-bas sur Paris ne peuvent plus venir au Cameroun. Alors on pense à une chanson, quelqu'un qui chantait être né quelque part, c'est parti quand on veut et revenir quand on veut, quand on peut, je ne sais pas trop. J'ai oublié le nom exactement parce que je confonds tous ces deux chanteurs dont j'ai peur de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais vous voyez un peu ce que c'était qui le chanteur. Là, je ne suis pas en voix, j'aurais pu chanter la mélodie. Après, c'est Oh, qui paraît ça, qui paraît ça. Vous voyez un peu. Ça, c'est Luffy qui faisait ça derrière. Pour rappeler le chant, le cri de l'Afrique en chaque Africain. Quelle inhumanité d'empêcher des gens qui sont nés quelque part de revenir sur la terre natale. Non, si. Il faut être Camerounais pour ressentir cela. Si, c'est un exil qui n'est pas acceptable, qui n'est pas acceptable. Donc il y a ça, un mal profond. On a peur que la diaspora revienne au Cameroun. Et pourquoi on a peur et qui en a peur? Ce sont ceux qui sont déjà en poste, des gens qu'on croyait qui pourraient même pas avoir peur. Ils ont peur de la concurrence, voilà. Et quand on dit l'ennemi, c'est pas le blanc pour le noir. L'ennemi, c'est l'Africain lui-même, c'est son frère. Maintenant, nous avons des nouveaux négriers qui sacrifient les immigrés à l'extérieur et qui ici font la fête, ils sont contents, un peu comme si ils avaient acheté le Cameroun. Mais le Cameroun, c'est une nation, ça n'appartient à personne. Vous avez des gens qui sont assis sur le budget, qui rigolent, qui se distribuent les postes et qui sont très contents parce que on a un constitutionnaliste ici qui était chargé de refaire cela et notamment d'inscrire la double nationalité dans la Constitution. Je ne sais même pas pourquoi on la met dans la Constitution. Ce sont des choses tellement évidentes ailleurs que lorsqu'ici ça se fait pas, on se pose des questions. Le président avait dit camerounais qu'il était pour la paix, mais il y a un gros problème. Avec le nord-ouest et le sud-ouest, bah, ça passe pas, son offre de paix. Et avec la diaspora, c'est la guerre aussi. Alors, je ne sais pas comment ce problème va être résolu. C'est dramatique, surtout pour moi, je suis la double nationalité. Enfin, double, j'étais pour la double nationalité, pas j'étais pour. Pour moi, ça paraît aller de soi. Ce sont des évidences. Pourquoi l'Africain est toujours empêtré dans des petites conditions, des petites considérations. Alors c'est vrai qu'ici, on ne veut pas de troubles à l'ordre public. On a peur que si la diaspora vient, elle va organiser des marches, on n'en veut pas. Elle va revendiquer, on n'en veut pas. Elle va peut-être bousculer les mœurs, on n'en veut pas. Donc autant de choses qui vont poser problème au Cameroun, parce que, bon, c'est vrai aussi que les Camerounais, ils sont surprenants. Vous avez d'un côté, ils se plaignent, et de l'autre, ils sont 100% pour que la diaspora ne soit pas là, parce que quand vous arrivez, vous allez voir des vertes et des pas mûres. Mais puisque nous parlons de souveraineté, de choses plus grandes que nous, que notre personne, j'ai vu un post, je ne sais plus si c'est un post, mais une information, ou un pasteur prêche. D'un prêche, une vidéo, d'un prêche d'un pasteur qui s'appelle Samuel Herman Mensah, je ne sais pas comment prononcer, parce que c'est un Ghanéen. Et c'est une race de pasteurs qui ne se contentent pas seulement de parler de Jésus-Christ, hein, vous voyez, la Bible et tout, mais qui essayent aussi de conscientiser les fidèles, de les amener à réfléchir sur leur environnement, bien sûr avec des principes religieux en toile de fond. Et là, il explique très bien la question du mal africain. Il explique et il commence à dire que l'ennemi est parmi nous. Il est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est clair, l'ennemi en Afrique, il n'est pas à l'extérieur. Il pose la question, mais mes frères, mes sœurs, qui est-ce qui a vendu l'homme noir à l'homme blanc? C'était bien nos leaders traditionnels. Là, j'entends de dire ce qu'il dit, hein. Alors, si nous attendons ou exigeons des excuses de l'homme blanc, il faut aussi les réclamer de nos chefs traditionnels qui ont vendu les Noirs, hein, et qui doivent aussi faire présenter des excuses, pas pour eux-mêmes, mais pour leurs prédécesseurs. Parce que vous savez, les chefs traditionnels, c'est un peu la lignée, c'est l'héritage. Alors, il parle du pays, du Ghana. Là, j'étais vraiment surprise parce que le Ghana. Ici en Afrique, puisque Kwame Nkrumah, c'est celui qui est le père du panafricanisme, c'est un pays qui est exemplaire sur la transition démocratique, mais alors que dans la gestion, c'est terrible. Là, il dit que si dans 20 ans, on ne stoppe pas l'extraction minière illégale au Ghana, le Ghana va importer de l'eau potable. Ah, alors là, j'ai dit, mais comment ça? Oui, parce que les Chinois. Ils viennent au Ghana, ils détruisent les forêts, ils détruisent les terres et ils consomment beaucoup d'eau parce qu'il paraît que l'extraction minière consomme beaucoup d'eau. Voilà, ils ne la recyclent pas et les chefs traditionnels sont de mèche avec eux. Et là où une fois il y a eu un incident, les chefs traditionnels ont appelé les militaires et les militaires, un incident avec donc les riverains, comme on dit. Les militaires sont venus, ils ont pris le côté des Chinois. Alors il s'est dit, mais comment pouvez-vous accepter que les chefs traditionnels, qui sont supposés protéger les habitants, les gens du village, du coin, et finissent par protéger les étrangers qui détruisent les forêts et épuisent l'eau? Alors l'ennemi, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. qui précise. Et il dit, puisqu'on parle de la Chine, que la Chine, il y a 20 ans, a pris un engagement qu'il y aurait 20% de sa population qui doit être millionnaire. Alors, cet engagement s'est accompagné d'une politique très forte pour soutenir les hommes d'affaires chinois, moyennant quoi aujourd'hui, à la date prévue, il y a 1,8 million de Chinois multimillionnaires en Chine, et alors que au Ghana, ben on cherche même tellement, on cherche tellement que même le système scolaire est à la peine, et alors que la Chine, qui vient faire tout ce qu'elle fait là, elle a permis de sortir 100 millions de gens qui étaient dans une extrême pauvreté, pratiquement des mendiants, les a sortis de la pauvreté. Mais au Ghana, qu'est-ce que le Ghana fait? Le pays fait quoi? Le gouvernement combat les hommes d'affaires. Lorsque ces hommes d'affaires prospèrent et que ces hommes d'affaires ne sont pas sympathisants du parti au pouvoir, ils vont vous combattre et vous ruiner et vous rendre pauvres. Alors que la Chine enrichit ses habitants, elle veut les enrichir, elle veut en faire des multimillionnaires. Ici en Afrique, on va appauvrir les hommes d'affaires, on va appauvrir les habitants. Alors, l'homme, il fait qu'insister, et là le refrain, le mal, l'ennemi est parmi nous, l'ennemi est à l'intérieur. Alors que la Chine veut enrichir donc ses habitants, nous on va appauvrir, mais pendant ce temps, la Chine vient à l'extérieur et elle est créée. Comment dire, une catastrophe environnementale terrible, et nos dirigeants regardent. Alors nos dirigeants, il dit, regardez les dirigeants africains, la quantité d'argent volé et emporté à l'extérieur. Il cite la Gambie, parce que pour le Ghana, bon, il cite les pays près du Ghana, certainement. La Gambie, Yahya Jammeh a volé 11 millions de dollars, il est parti, l'ex-président, en fait c'était 21 millions de dollars. Au Nigeria, Sani Abacha a volé entre 1 à 5 milliards. Finalement, d'après son avocat suisse, d'après l'avocat suisse Enrico Monfrini, embauché par le président qui a succédé, j'ai oublié son nom là, nigérian, pour récupérer cet argent. Il parle de 2,4 milliards finalement. Et d'après lui, il reste 144 millions de dollars à récupérer en France depuis le temps, 30 millions de dollars à récupérer au Royaume-Uni et 18 en Jersey. Bon, ça doit être les paradis fiscaux. Et ici, Hosni Moubarak, 17 millions US dollars volés. Il cite Silvano Olympus, le président le premier président du Togo, assassiné parce que, c'est important, il avait décidé de créer une monnaie togolaise et la France n'en a pas voulu, moyennant quoi, il a été éliminé. Il a été éliminé, un peu vous avez vu à Haïti, là on a éliminé le président par un commando, on ne sait pas d'où il vient, ça c'était une parenthèse. Le pasteur continue, il parle d'Eyadema. Oui, bon, et Yadema qui a donc tué le président Silvano Olympus au Togo pour prendre la succession et donc adopter le franc CFA. Au Burkina Faso, le président qui a obtenu l'indépendance du pays a été éliminé. Et ça, c'est toujours avec la complicité des Noirs sur place, de leurs seconds. Kwame Nkrumah, le président du Ghana, le père du panafricanisme. A été éliminé aussi, je ne sais pas trop, en fait, son traître l'a remplacé. Et il est désolé que l'aéroport international du Ghana porte le nom de ce traître. J'ai pas pris le nom. Hein. Et il appelle à remplacer, absolument à débaptiser l'aéroport international du Ghana et à l'appeler aéroport Kwame Nkrumah. Éventuellement, s'il est disposé à ce que, enfin, il appelle à un dialogue, une conversation nationale sur le sujet, parce que sinon, en laissant les gens qui ont commis des coups d'État comme ceci contre les pères de l'indépendance, en mettant leur nom sur le fronton de la vitrine, des vitrines du pays, on était un peu comme si on endossait le coup. Et ça, c'est pas normal. Bref, l'ennemi est à l'intérieur parce que un père, et là on va revenir à la diaspora, pour lui, un père ne peut pas vouloir la destruction de la vie de ses enfants. Or, nos dirigeants africains, ils détruisent la vie des enfants, ils détruisent la vie des hommes d'affaires, ils ne travaillent en rien pour leur bien-être, ils tuent le business de leur propre peuple. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, l'ennemi, à l'intérieur? Il faut changer d'attitude, de caractère, de valeur. Bon, c'est facile à dire, mais depuis que nous disons cela, qu'il faut que l'Afrique se libère, qu'elle change et tout, mais on se rend compte que plus on le dit, plus les chefs d'État sont couchés avec les forces anciennement coloniales, la métropole, ça n'avance pas. Et je vous assure que si demain Macron dit au président ici, ben, la double nationalité, vous la mettez en place, ça sera fait tout de suite. On attend les ordres de l'extérieur. Mais on ne peut pas dépasser notre propre petite personne ou notre, pour s'élever au niveau du défi africain. On en parle avec la bouche, mais dans leurs actes, vous ne verrez jamais cela suivre. Bon, les pasteurs, même s'ils en parlent déjà, c'est que c'est la désespérance. Nous devenons ridicules en tant qu'Africains. Et pardon, les immigrés, ils en perdent le latin là-bas. Merci au pasteur Samuel Mensah, parce que souvent les pasteurs ne parlent pas de ces choses-là, ils ont peur qu'on leur tombe dessus à bras raccourcis. Mais c'est un désastre de voir que les négriers, ça existe encore. C'est un désastre de voir que les immigrés ne sont pas protégés à l'étranger par leur chef d'État, alors qu'ici, c'est la porte ouverte à tout. À tous les affairistes. C'est un désastre de voir que c'est l'étranger qui vient s'enrichir, se gaver, se goinfrer ici avec des marchés publics. Je ne sais même pas qu'il pleuve, que je veux dire, c'est dégoulinant comme ça d'argent, l'argent des Africains, des Camerounais, ou alors qui sont spoliés sur une durée indéterminée parce que on a dit là qu'ils ont fait un truc de rebond qui consiste à aller diminuer la dette par des manœuvres, par des montages financiers. Alors on va laisser une dette incroyable aux enfants, mais la dette, c'est rien. Mais c'est que cette dette, là, on la paiera jamais. On la paiera par une présence continue et permanente des multinationales et du FMI et de tout le monde ici. Donc c'est terrible. C'est un continent sacrifié, pas pour 50 ans, pour 100 ans. C'est une histoire de fou. Qu'est-ce que la décentralisation dont on parle tant peut faire avec ça, là-dessus? Bon, c'est vrai que quand le père, on fait un poste comme celui-ci sur le pasteur Mensah, qui met en cause les leaders traditionnels, bon, c'est vrai qu'on fait référence là au fait que sous le régime anglophone, il travaillait beaucoup avec les leaders traditionnels, ça se passait bien. Et bon, là, quand lui le dit, il essaie de dire, ben non, les leaders traditionnels sont tout autant corrompus et que peut-être finalement, ce qu'on croit être une grosse différence entre la façon de gérer très décentralisée et fédérée des Anglo-Saxons et la façon centralisée, c'est une fausse apparence, c'est un leurre. Derrière, ce sont les mêmes forces qui travaillent et au point que moi, je me demandais aujourd'hui la décentralisation en Afrique. Ça deviendra quoi? Puisque l'Afrique ne se gouverne pas d'elle-même. Elle est pilotée de l'extérieur. Alors, quand on fragmente les territoires, je ne sais pas, pour amener au plus petit, ben, le plus petit dans tout ça, quel pouvoir, il sera broyé. La décentralisation, déjà, il n'y a pas d'argent. L'État camerounais a des petites difficultés parce qu'elle a la guerre dans le nord-sud-ouest, là, qu'il faut financer, qui est d'ailleurs financée par l'argent du pétrole, lequel argent devrait servir plutôt à remonter le niveau de vie des populations et à, je sais pas, à fournir de l'eau, à fournir l'électricité. Bon, il manque tout, il manque tout, il manque tout. Et si la diaspora veut revenir, là où la Chine a permis que cette diaspora revienne et donne un coup de boost violent pour le développement du pays, nous ici, toutes les forces sont faites pour empêcher cela, pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement, avec la complicité des ennemis de l'intérieur. Ah, c'est désorientant, vraiment, c'est très désorientant, c'est très triste. Quand vous êtes ici, ça vous afflige de voir tout ça et de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Noirs? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants africains? Qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui ont tout, la richesse, l'argent, tous les matériels qui dégoulinent comme ça avec l'argent qui ne peuvent même pas produire, il n'y ait pas d'usine et il y a une détestation de leur diaspora qui dépasse pas seulement la diaspora, même de leur peuple ici, ils s'en foutent. Une telle détestation, d'où peut-elle venir? Ah, quelqu'un disait, oui, mais le Dieu de Jésus blanc, là, les Africains doivent le jeter aux orties. Ça, c'est pas un vrai. J'ai dit, mais non, vous n'avez rien compris. Jésus, il est au-dessus de la couleur, il peut être blanc, il peut être noir, il peut être jaune. Jésus, c'est pas une couleur. Jésus, c'est un symbole. Il nous a appelés à vivre comme lui. Si nous sommes appelés à vivre comme lui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'abord, il y a le message de l'amour. Il y a le message de la compassion. Il y a le message aussi de la propriété. Vous ne pouvez pas venir vous approprier un pays. Ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas le pays de votre père. C'est le pays d'une nation. Il y a des gens là-dessus. Vous êtes nombreux sur ça. Et le fait de s'accaparer le bien public comme ça, de favoriser certains sur la base de rien du tout, enfin sur des bases vraiment très discutables. On est là dans des questions métaphysiques et on n'entend pas beaucoup les philosophes parler ici. Bon, peut-être qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Hein. Les gens sont dans des situations où vraiment, si on ramène encore la philosophie, c'est pas trop. Mais qui va conscientiser les leaders africains? Qui? Et le peuple, je ne le vois pas en train de se rebeller. C'est pas, vous voyez, c'est l'exemple vient d'en haut. Ça a endormi, le peuple a endormi, il a perdu de son influx. Donc, et c'est pas comme le peuple chez les Blancs qui allait à la Révolution, qui disait il y en a marre, il y en a assez, on y va. Non, ici, non, c'est léthargique, on est là, on se regarde, pas d'énergie, on tourne à vide, et puis voilà, on verra demain. Peut-être qu'un blanc viendra nous sauver, mais quelle affaire! Quelle affaire! Comment l'Afrique va reprendre sa souveraineté? Ouf! Bon, amis de Radio Silence, je vais m'arrêter là parce que après, ça devient très difficile émotionnellement. Vous avez écouté Radio Silence, c'était Flash sur le monde par Élise Mbok, et je vous dis à bientôt.
Hit my knee.